15h03, restez avec nous sur France Inter. Le temps d'un bivouac, c'est maintenant avec vous, Daniel Fievet.
Oui, merci Margot Delpierre. On prend la voix des airs dans le temps d'un bivouac et on vous retrouve à 16h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
C'est l'histoire d'un météorologue passionné d'oiseaux qui, à la fin des années 1990, se lance dans un projet un peu fou. Ayant pris connaissance des ravages causés par la chasse sur une espèce d'oiseau migrateur d'Europe centrale, des oinènes, il décide d'enseigner à un groupe d'oies de cette espèce une nouvelle route migratoire, loin des fusils. Pour ce faire, il imagine une méthode étonnante, quelque chose que personne n'avait entrepris avant lui. Notre passionné d'oiseaux, Christian Moulec, veut guider l'escadrille d'oies menacées avec un ULM de la Suède jusqu'à un site d'hivernage sûr en Allemagne. Le défi n'a rien d'évident, mais Christian Moulec va réussir son pari. Plus de 20 ans après son incroyable aventure, l'homme-oiseau, comme l'a surnommé la presse, continue de voler aux côtés de différentes espèces. Ses images en plein ciel, à hauteur d'oiseau, ont fait le tour du monde et lui ont ouvert les portes du cinéma. Inlassable défenseur de ses amis à plumes, il a récemment publié avec le journaliste Xavier Muller un livre intitulé « Dans le sillage des oiseaux migrateurs » aux éditions Duno. Cet après-midi, Christian Moulec nous emmène dans ses aventures à vol d'oiseaux. Et en fin d'émission, nous partirons à la découverte des plantes les plus redoutables de la planète avec une voyageuse passionnée de botanique, Katia Astafiev. Voilà pour le plan de vol de cette émission réalisée par Hélène Kouyoumdjan et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Nicolas Delmas. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievet.
Et hop, ça y est, elles sont en vol, aussi.
Elles sont à quelle distance par rapport, les bernaches nevettes, par rapport à l'aile de ton ULM, Christian?
Un mètre, deux mètres.
Là, elles sont au-dessus de nous, même. Et hop,
on va essayer de les faire monter un peu plus, hein, parce qu'on sera plus tranquille en altitude. Ils utilisent déjà, comme tu peux le voir, les courants, l'air qui est plus dense sur le bord d'attaque de l'aile. Elles s'appuient contre l'aile, elles ne battent pratiquement plus des ailes. Tiens, tu vas pouvoir toucher cet oiseau-là.
Touche. Oh là là. Je touche la queue de l'oiseau.
C'est qu'il y a autant de personnes qui ont touché un oiseau en vol qu'il y a de doigts sur ta main.
Là, franchement, Christian, c'est le rêve d'Icar, là.
Voilà, le rêve d'Icar réalisé. Nous sommes des oiseaux parmi d'autres oiseaux.
Bonjour Christian Moulec.
Bonjour Daniel.
C'est vous qui faisiez vivre à Stéphane Combe, reporter à France Inter, ce rêve d'Icar en 2014. Vol avec des bernaches nonnettes, des oiseaux que vous avez élevés, qui vous connaissent, qui vous reconnaissent et qui vous accompagnent lorsque vous vous envolez avec votre ULM.
Oui, tout à fait. Et Stéphane était déjà passionné par tout ce qui vole. Et là, moi, je lui faisais partager ce que je ressens en vol avec les oiseaux depuis quelques années déjà.
Ouais. Alors, il y a une telle confiance entre vous et ces oiseaux qu'il est même possible, on l'entendait, de toucher l'oiseau en plein vol.
Oui, alors on a un ULM un peu spécial où le passager est assis à l'avant. Il n'y a rien pour comme obstacle à la vue. Il peut tendre le bras et caresser délicatement les pattes, la queue des oiseaux. Surtout pas les ailes, faut pas toucher les ailes. Donc j'explique bien à mes passagers comment faire sans perturber l'oiseau.
Et vous avez vu certains oiseaux découvrir qu'ils pouvaient voler à vos côtés. Vous avez accompagné des oiseaux dans leur premier pas d'oiseau,
voilà.
Dans leur premier coup d'aile.
C'est ça. Certaines fois, je suis un peu en retard par rapport à la biologie des oiseaux que j'élève. Ils sont déjà aptes au vol, mais ils ne le savent pas. Donc, je démarre l'ULM, je décolle un peu pour un petit vol, et eux découvrent qu'ils savent voler, en fait. Alors, ils sont très maladroits et on sent leur surprise. Ouais. C'est exceptionnel de voir ça.
Vous lisez dans leur regard la surprise de l'oiseau
qui comprend
qu'il peut voler.
Oui, il y a des moments amusants. Oui. Ouais. Alors, ils sont tellement à l'aise en vol très rapidement. On n'apprend pas un oiseau à voler. Ouais. C'est plutôt eux qui m'ont appris à voler avec eux.
Bien sûr. Qu'est-ce qu'on ressent quand on vole en formation avec des oiseaux?
Alors, j'ai vécu beaucoup d'expériences avec différentes espèces au-dessus de beaucoup de sites souvent splendides. Hein. Donc, les paysages aériens sont toujours très très beaux, mais quelque part, ils se justifient à moi quand il y a un oiseau au premier plan. Ouais. J'ai toujours observé les oiseaux depuis le sol. Déjà, quand j'étais enfant, j'étais membre de la Ligue pour la protection des oiseaux. Je me passionnais très tôt pour les oiseaux et je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je volerais avec eux. Et je dois dire qu'il n'y a pas vraiment d'adjectif. Il faudrait inventer un vocabulaire pour ça.
Ah oui, pour décrire ce que l'on ressent quand on voit le monde à hauteur d'oiseau.
Oui, vous savez que vous avez des grosses émotions quand vous voulez témoigner de quelque chose. Souvent, vous ne trouvez pas les mots. Et là, on va aller puiser dans un vocabulaire connu, mais vraiment, on ressent quelque chose d'un petit peu spirituel. Si vous voulez, il y a certainement des cases dans le cerveau qui se mettent en activité quand vous vivez quelque chose d'aussi exceptionnel comme ça. Et quelque part, je le ressens comme ça, ça vous recadre par rapport à votre environnement.
Alors votre passion, Christian Moulec, pour le ciel, les oiseaux, vous le disiez, ne date pas d'hier. En Bretagne, déjà tout petit, vous aviez les yeux rivés vers le ciel. C'est ce qui vous a donné, dans un premier temps, l'envie de devenir météorologue. Ça a été votre premier métier.
Oui, alors moi je voulais voyager pour aller voir des albatros. Hein. Et puis, il n'y a pas tellement d'îles dans le monde où des touristes vont payer un voyage pour voir des albatros. Donc je me suis dit, si tu es météorologiste dans les territoires et d'outre-mer, hein, il y en a beaucoup en France, hein, les dom-toms, eh bien tu auras l'occasion de côtoyer toutes ces espèces.
Ouais. C'est comme ça. Alors ouais, c'était vraiment le plan d'attaque pour pouvoir approcher les oiseaux. Vous, tout jeune météorologue, 27 ans, vous embarquez pour l'île Amsterdam, on est au sud de l'océan Indien.
En plein milieu de l'océan Indien.
Eh ouais.
Loin à 3 ou 4 000 km de toute terre habitée, en fait. On est complètement perdu.
Et là, pour le coup, les albatros, ils étaient là.
Alors, les albatros, il y avait aussi de nombreuses otaries, des manchots, des gorfous sauteurs, hein, une faune très très riche et familière. Parce qu'il n'y a jamais eu de chasse sur ces territoires d'outre-mer. Donc, vous voyez des parades d'albatros devant vous, les oiseaux ne sont pas dérangés. Et ouais. Là, vous pouvez faire des photos magnifiques.
Des photos et les baguer. Alors, l'albatros, c'est gigantesque. Hein, vous dites d'envergure, c'est 3,80 m d'envergure. Ce sont des oiseaux qui ne sont pas habitués à l'homme, donc pas du tout craintifs. Alors, un bec très tranchant, donc quand même, quand on veut baguer un oiseau de 3,80 m d'envergure, il faut y aller doucement.
Alors, on est forcément obligé de le contenir. On est deux pour faire ça. Il y en a un qui le maintient et l'autre qui met la bague. Alors, c'était très, très surprenant parce que c'est une espèce endémique de l'île Amsterdam. Ouais. Un albatros géant, plus de 3,50 m d'envergure, et une espèce déjà en voie de disparition. Il n'y avait qu'une vingtaine de couples à l'époque. Et on baguait avec mon collègue ornithologue le dernier couple non baqué. On célébrait en quelque sorte un mariage au moment d'une parade nuptiale. On leur passait la bague au doigt. Et des couples unis pour la vie. Hein, des oiseaux qui peuvent vivre 80 ans.
80 ans, un albatros, c'est 80
absolument.
Ans de longévité.
Oui, oui, oui. Et les parades nuptiales durent plusieurs années. La première reproduction entre 10 et 12 ans d'âge. Et un seul petit tous les deux ans, vous voyez, beaucoup de records chez cette espèce.
Alors on le comprend, hein, météorologue, mais passionné d'oiseaux, vous allez aussi atterrir à Saint-Pierre-et-Miquelon, là aussi beaucoup d'oiseaux, alors là on change d'hémisphère, on est dans le nord.
Voilà, alors c'était juste après avoir passé séjourné un an sur l'île Amsterdam, eh bien j'ai l'opportunité d'aller travailler à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ouais. Et là aussi, beaucoup d'oiseaux?
Oui, mais là il y avait une population, hein, bien sûr. Et 7000 habitants, deux îles, un archipel, des territoires magnifiques avec une riche biodiversité, multitude d'espèces d'oiseaux. Et là, je réalise mes premiers petits films 16 mm, je fais beaucoup de photos et je communique ma passion des oiseaux à travers les images que je réalise.
Et pendant toutes ces années, mûrissait votre projet, Christian Moulec, de guider à travers l'Europe, en ULM, des oies naines menacées pour leur apprendre un nouveau chemin de migration pour éviter les chasseurs. Et il y a d'ailleurs un scientifique dont les travaux vous ont beaucoup inspiré. C'est le biologiste Konrad Lorenz, prix Nobel de physiologie 1973. Il a travaillé sur le comportement animal et plus particulièrement sur celui des oiseaux. Il a élevé des oies avec lesquelles il a appris à communiquer, comme il l'explique dans cette archive sur France Culture.
Si je donne mes meilleures imitations de l'oie cendrée à des oies qui ne me connaissent pas, ils n'y répondent pas. Si je dis la même chose aux oies que j'ai élevées moi-même, même s'il y a des années sont écoulées depuis, ils me répondent tout de suite, ils comprennent. Alors il y a ça veut dire que les oies se trouvent bien, sont en train de manger. Si les syllabes deviennent isolées, quand, alors c'est prévisible qu'elles s'envoleraient tout de suite. En imitant ces sons, vous pouvez inciter une couvée de vos, des oies qui vous connaissent de s'envoler.
Conrad Lorenz, décédé en 1989, vous arrivez, vous aussi, à Christian Moulec, à décrypter le langage des oiseaux, à communiquer avec eux, à savoir quand ils veulent voler, à les inciter à prendre leur envol.
Oui, alors je ne connaissais pas cet archive, et c'est vrai, quand on veut faire décoller une oie, on fait comme il l'a dit, Conrad Lorenz, le cri d'alerte, et là, on peut les faire décoller. Et on reconnaît toute une gamme de sons qu'il prononce en permanence, on échange en permanence. Donc ce sont des oiseaux d'espèces grégaires qui vivent en groupe, comme l'espèce humaine. C'est pour la raison pour laquelle Lorenz voulait les étudier aussi, pour faire des rapprochements avec les comportements humains.
Et c'est en vous penchant sur les travaux de Conrad Lorenz, notamment, que vous est venue cette idée qu'il était possible, certainement, de guider des oies, en l'occurrence ces oies naines que vous vouliez protéger, cette espèce en voie de disparition. Vous vouliez les guider pour leur montrer une nouvelle route de migration loin des fusils.
Oui, alors quand je voyais des reportages avec Conrad Lorenz, déjà très jeune, je lisais des ouvrages de Conrad Lorenz, je me disais, cet homme-là aurait pu voler avec les oiseaux, les oies qui l'élevaient. Ouais. Mais ça n'avait pas d'utilité. Mais jusqu'au jour, je suis tombé sur un article qui parlait de la disparition des oies naines. Et c'était une revue de la Société Nationale de Protection de la Nature qui expliquait comment les Suédois essayaient, avec beaucoup de difficultés, de revoir des oies naines dans leur pays. Cette espèce qui a disparu à cause des abus de la chasse, là où elle passait l'hiver, sur les sites d'hivernage dans le sud-est de l'Europe. Et ben je me disais, et ben là tu vas pouvoir guider des oies naines, si tu arrives à voler avec elles, vers des sites où elles seront protégées. Mmh. Donc j'ai proposé ce projet à un ami de Conrad Lorenz, c'était Lambert von Essen, un Suédois qui avait rencontré, qui était ami avec, et c'était passionnant pour moi de rencontrer des gens qui avaient bien
qui avait connu ce scientifique qui vous avait passionné.
Absolument.
Mais avant d'essayer de guider ces oies naines, des spécimens d'oies naines, il a fallu tester qu'il était possible de voler avec des oiseaux. Et donc, vous avez d'abord essayé avec une autre espèce d'oiseau.
Oui, des bernaches nonnettes, une espèce non menacée, ouais, plus commune, hein, qui niche en Islande, au Groenland, qui hiverne sur les côtes de la mer du Nord, hein, en général, quelquefois jusqu'en France. Et on en trouve dans des élevages assez facilement. Donc, j'ai commencé avec deux, trois oiseaux. Trois
et là, c'était une première. Personne ne l'avait fait avant vous?
Non. Et moi, c'était dans le but, bien vraiment sûr, de réaliser. Alors, il y a un Canadien qui, parallèlement, avait volé aussi, qui volait aussi avec des oiseaux, mais sans but, hein.
Ouais.
Et il s'appelait Bill Leishman, hein. Il est décédé maintenant. Mais moi, c'était vraiment pour réintroduire l'oie naine. Ouais.
Alors, l'idée, c'était d'élever ces oies naines de façon à ce qu'ensuite elles vous reconnaissent, elles vous suivent. Mais cette fois-ci, toute la difficulté, c'était qu'ensuite elles puissent retourner à l'état sauvage. Donc là, il y avait ce degré supplémentaire dans le défi.
Oui. Alors, avec ma compagne Paola, ben, on découvrait des tas de choses, un domaine inconnu, hein. Et on a appris à bien connaître ces oiseaux, leurs réactions. Et puis, être familier avec de tels oiseaux, on les expose au danger de l'espèce humaine, bien sûr, hein. Un humain dans la nature, c'est souvent, ben, c'est une silhouette avec deux bras et souvent un fusil dans les mains. Donc, il fallait que nos oiseaux aient peur d'une silhouette humaine classique.
Mmh. Alors, c'est pour ça que vous vous êtes déguisé, en quelque sorte, pour ne plus vraiment ressembler à des humains.
Un peu comme des moines avec une espèce de robe, de bure qui casse la silhouette humaine.
Ouais. Alors, on a mis quelques photos de vous et de Paola, votre épouse, en robe de bure sur la page du Temps d'un Bivouac pour voir à quoi ça ressemble. Au moment où vous entreprenez ce projet, il est jugé, il faut bien le dire, saugrenu par beaucoup. Vous y croyez, dur comme fer. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé dans la suite de cette émission. Christian Moulec nous emmène à Tire-d'Aile pour un bivouac en plein ciel dans le sillage des oiseaux migrateurs. Allez, on décolle cet après-midi sur France Inter. Shoot up. cette East West Ling chantée par King Gizzard and the Lizard Wizard sur France Inter.
Il faut que j'ai toujours, tous les jours, ce contact. Alors la nourriture, c'est un bon moyen d'avoir un contact avec les oiseaux.
Hop, hop.
Vous voyez, elle me...
Hop.
Le canard, les oies, tout le monde me répond. On va aller les voir.
Hop.
Venez, venez.
Hop.
C'est assourdissant, hein. On n'entend plus parler. Et quand elle me voit, elle m'appelle. Je les appelle.
Christian Moulec en grande discussion avec ses oiseaux, ses oies et ses canards dans sa ferme du Cantal. Ils sont bavards, vos oiseaux, Christian Moulec?
Ah oui, je le disais, c'est des espèces grégaires qui échangent en permanence. Il faut échanger avec elles si on veut voler avec elles.
Alors là, ce sont des oiseaux avec lesquels vous vivez et vous volez régulièrement. Il n'est pas question qu'ils retournent à l'état sauvage, hein, les oiseaux que l'on vient d'entendre.
Ah bah on pourrait les remettre dans la nature assez facilement, mais il y a des dangers souvent liés aux activités humaines dans la nature.
Alors que pour le projet que vous avez entrepris il y a un peu plus de 20 ans, les oies naines, vous souhaitiez les guider pour leur montrer ce chemin de migration qui leur permettrait d'éviter les chasseurs. Mais l'enjeu n'était pas le même parce qu'il fallait qu'à terme, elles puissent retourner à l'état sauvage. Vous avez donc enfilé ces robes de bure.
Oui.
Vous avez assisté à l'éclosion des œufs. Les œufs, vous étiez présent au moment où les poussins sont sortis de leur coquille.
Oui, pour une bonne imprégnation, il faut être présent dès la naissance.
Alors, imprégnation, c'est vraiment le terme
scientifique.
C'est un terme
anglais, to imprint, hein, c'est pas français.
Qu'est-ce que ça veut dire, alors,
l'imprégnation? Ça veut dire, toutes les espèces qu'on fait naître, hein, très tôt, eh bien, il y a des liens qui se tissent entre les jeunes et leurs parents. Hein, et ce lien va permettre ensuite de pouvoir... S'agissant des oiseaux, pouvoir voler avec.
Donc vous avez été pour ces oiseaux en quelque sorte des parents de substitution.
Exactement, des parents de substitution. Oui.
Et ensuite, il a fallu, une fois que ces oiseaux ont grandi, vous les avez nourris, il a fallu leur apprendre à voler et à surtout reconnaître le site. Puisque le but était de les faire partir d'un site en Suède pour voilà. Ensuite les amener à un autre site en Allemagne. Mais il fallait que le site en Suède, voilà. Elles le connaissent, elles l'apprécient, elles aient envie d'y retourner.
Voilà, réintroduire cette espèce sur des sites protégés en Scandinavie et ensuite migrer avec elles sur un autre site d'hivernage dans le sud-ouest de l'Allemagne, sur tout un itinéraire en vol. Bon, ça n'avait jamais été fait, donc on découvrait, on défrichait un terrain complètement... Et les oiseaux vont mémoriser en vol, à partir d'une certaine altitude, les endroits qu'ils vont considérer comme leur terre d'origine.
C'est
bon, ces oiseaux étaient nés dans le Cantal, mais n'avaient pas appris à voler dans le Cantal. Ils étaient très très jeunes. Fallait qu'on arrive en Scandinavie avant que ces oiseaux ne sachent voler. Donc tout l'apprentissage au vol s'est passé en Scandinavie.
En Scandinavie, à 50 km de Stockholm, dans une réserve naturelle, Östermalma, je prononce mal le suédois. Et là, pendant plus d'un mois... Vous avez volé avec ces oies naines autour de cette réserve pour qu'elles enregistrent, qu'elles mémorisent le paysage.
Déjà pour qu'elles puissent suivre correctement l'ULM, c'est pas simple,
et
puisqu'on
oui.
avait dû équiper notre ULM avec des flotteurs. Hein. On n'avait jamais volé avec des flotteurs, ces ULM n'avaient pas été testés non plus. Donc
pourquoi des flotteurs?
Eh ben, pour pouvoir se poser sur l'eau,
ouais.
Hein, sur des lacs. Il n'y a que des lacs et de la forêt là-bas. Hein. Et sinon des plages le long de la côte de la mer Baltique. Donc, il faut pouvoir se poser en permanence. Donc, les surfaces en eau permettent de larges sites pour se poser. Et alors, il fallait qu'on s'aguerrisse au vol. Au vol avec ces oiseaux, qu'on découvrait également.
Qui ne sont pas, si j'ai bien compris, des oiseaux migrateurs très suiveurs ou très suiveuses pour ces oies. Il fallait un peu les convaincre pour qu'elles restent toutes ensemble, qu'elles vous suivent.
Depuis toutes 25 ans que je vole avec les oiseaux, j'ai volé avec une quinzaine d'espèces différentes. Et je peux dire que l'oie naine est certainement l'espèce la plus difficile à voler avec.
Ouais.
Et ben, plus, c'est des challenges à chaque fois. Mais on y arrive. Et donc, on a appris plein de choses. Et puis, c'est des leçons. Faut faire preuve d'humilité à chaque fois.
Bon. Ouais.
Parce qu'il y a un peu de danger quand tout est nouveau et faut que ça se passe bien. Donc, on était condamné à réussir parce qu'on présentait notre projet à la communauté scientifique. On était quand même invité par des biologistes. Fallait aller jusqu'au bout et réussir. Sinon, on était grillé. Ouais.
Alors, vous faites ça avec votre épouse. Quand vous dites on, hein, c'est vous et votre épouse.
Et il y avait deux, trois amis biologistes avec nous également. Ouais.
Et alors, d'ailleurs, au début, vous vous rendez compte que, comme Paola a plus fait finalement l'imprégnation, c'est-à-dire qu'elle était plus auprès des poussins que vous, parce que vous aviez beaucoup d'autres choses à gérer.
La logistique à organiser. Oui.
Et au début, Paola est obligée de monter avec vous sur l'ULM pour que les oiseaux suivent.
Alors, on a découvert assez tôt, quand même. On avait tous un uniforme qui brise la silhouette humaine, mais les visages étaient découverts. Il y avait un documentaire à l'époque et il fallait pouvoir voir des personnages. Les oiseaux reconnaissent très très bien les visages. Et quand ils ne voyaient pas le visage de Paola en vol avec moi, eh ben ils finissaient par abandonner l'ULM, se demandant mais où était leur maman de substitution.
Eh oui.
Voilà, donc parce que moi j'étais trop occupé à tout organiser, c'était très compliqué.
Alors le jour du grand départ arrive, les oiseaux ont, vous le pensez, mémorisé le site sur lequel ils devront revenir. Alors pour les emporter avec vous, pour qu'ils vous suivent le premier jour, déjà ça prend 24 heures. Vous devez faire des allers-retours parce qu'à chaque fois, certains des oiseaux rebroussent chemin et retournent au site.
Oui, si on reste trop longtemps sur le même site, ils s'attachent trop au site. Et abandonne l'ULM. D'autant plus si Paola n'est pas à bord.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que Paola a dû faire toute la migration pour arracher les oiseaux du site qu'il connaissait trop bien.
Oui, c'est ça. Donc, on le sent, c'était difficile de rassembler les troupes. Enfin, les oiseaux consentent à vous suivre, vous et votre femme Paola, sur l'ULM. Et autour de vous, donc, cette escadrille d'oiseaux, vous partez pour une longue migration.
Allez, on est parti. Ouais. C'est bien, les filles. Allez, allez.
Pilotage.
Ouais, c'est bon, c'est impeccable. Elles ont repris leur vol là, en V, bien en ligne, ça va.
Là, c'est magnifique, là. On a une file énorme, impossible de les compter.
La file, elle ondule tellement que elles se cachent les unes derrière les autres par moment et on les voit plus.
J'arrive à en compter une quinzaine et après j'arrive plus.
Elles sont pas habituées à voler au-dessus de la forêt.
Elles vont être servies là, dans quelques kilomètres il y a la Baltique.
Ouais. Elle est droit devant nous la Baltique. Tu la vois là, droit devant nous.
La mer Baltique en vue, vous vous souvenez de l'émotion ressentie lors de ce début de migration, Christian Moulec?
Ah oui, parce que toutes les étapes étaient très différentes. Hein. Il fallait d'abord gagner la mer Baltique pour longer ensuite la côte jusqu'au Danemark. Et on avait 33 oiseaux, il fallait les compter en permanence pour ne pas en oublier en route. Et on a du mal à compter 33 oiseaux. Il fallait pas en perdre.
Vous êtes retrouvé mêlé, c'est ce que vous dites, à un flux millénaire d'oiseaux migrateurs quittant la Scandinavie. Vous écrivez dans votre livre « Autour de moi, le ciel était peuplé d'oies, cormorants, grues cendrées et autres passereaux. Des faucons chassaient en vol, effectuant des piquets vertigineux. Nous allions tous dans la même direction, plein sud. » Vous avez été les premiers humains, vous et votre épouse, à vivre ça, un véritable privilège.
Ah oui, on descendait, on faisait une migration comme des oiseaux migrateurs. Nous étions faits oiseaux incarnés en oiseaux migrateurs, accompagnés par notre propre groupe d'oiseaux. Et on côtoyait beaucoup d'autres espèces qui volaient toutes vers le sud. Et ça c'est merveilleux.
Ouais. Les vols s'effectuaient de jour ou de nuit ?
Alors, à cette latitude-là, à cette époque-là, il y avait presque pas de nuit. Il faisait jour à 2-3 heures du matin. Ouais. Donc, on partait très très tôt. On faisait des étapes assez courtes pour permettre à l'équipe au sol, Michael et Fanchon, de nous retrouver aux étapes. On ne savait pas où on allait se poser en avance.
Les oies peuvent-elles dormir en vol ou est-ce que c'est très réveillé une oie quand ça migre?
Non, elles sont très éveillées, hein, parce qu'elles veulent surtout pas perdre les parents, hein. Donc, et puis, elles volent en formation pour économiser l'énergie, jusqu'à 20% d'énergie d'économiser si elles volent en ligne les unes derrière les autres. À chaque battement d'aile, il y a un mouvement d'air qui se fait et l'oiseau de derrière va se placer sur la le côté dans la partie ascendante du battement d'aile de l'oiseau qui est devant. Ouais. Donc, il surfe sur le bord d'aile. Enfin, on a découvert plein de choses sur le comportement. Il s'amuse en vol avec
l'aile. Il surfe sur le bord d'aile. C'est-à-dire que les mouvements d'air que vous générez, eux s'amusent avec, en quelque sorte.
L'air qui frappe le bord d'attaque de l'aile quand il avance, c'est comme une vague invisible. Il se place là. Certains oiseaux arrivaient mieux que les autres à le faire. Et il surfe sans aucun battement. Oui. Il s'amuse en quelque sorte. Hein.
Mais le bruit de l'ULM ne les gêne pas du tout.
Non, pas du tout.
Vous les aviez habitués à ce bruit?
On les habitue très très tôt. Hein.
Ouais.
Oui. Des poussins, il faut qu'ils suivent un peu l'ULM au sol déjà, oui.
Et déjà, sur l'ULM, vous aviez toujours votre robe de bure. Qui vous voyaient passer dans le ciel quand même, avec ces 30 oiseaux derrière vous, sur votre ULM, qui vous voyaient ensuite descendre en robe de bure, ça devait pas passer inaperçu, cette histoire.
Mais surtout qu'on essayait de pas trop les approcher pour que les oiseaux restent distants des gens qui n'avaient pas cette robe de bure.
Ouais.
Alors, les Suédois, les Nordiques sont réservés naturellement, mais nous réservaient toujours une petite place dans le port où on trouvait un havre de paix et avaient à cœur que ça se passe bien pour nous. Il y a eu des articles incroyables dans la presse où une fois une jeune fille témoignait en première page qu'elle avait vu un ovni bleu voler au-dessus des flots avec des oiseaux qui l'accompagnaient.
On vous a pris pour un ovni.
Pour des extraterrestres. Nous étions des extraterrestres.
Alors, ça dure 5 semaines, hein, cette grande migration.
Oui.
Vous arrivez près de Düsseldorf, en Allemagne, le long du Rhin, sur un site d'hivernage.
On avait traversé la Ruhr, les usines. Mais il y a beaucoup de réserves naturelles en Allemagne. Il y a quand même, les Allemands font les choses assez bien en termes d'environnement quand même. Et une vaste réserve invitée par des biologistes allemands pour tenter cette première d'acclimater cette espèce sur des sites protégés, là où, a priori, elle ne passait pas l'hiver.
C'est ça. Et alors, arrivée sur ce site, là, c'est une autre phase qui s'enclenche. Il faut que vous vous détachiez progressivement de ces oies naines. Il faut qu'elles s'en sauvagent au contact des autres oiseaux de la réserve.
Voilà. Alors, on est arrivé avant l'arrivée massif des autres espèces d'oies sauvages, comme les oies rieuses, hein, des dizaines de milliers d'oies rieuses, et des oies qui arrivent en famille. Et nous, on est resté un mois à peu près avec nos oiseaux pour tout doucement se détacher d'eux. Mais normalement, tout un hiver, ce sont des groupes de familles d'oies qui restent ensemble. Mmh. Donc, c'était pas très confortable pour les oiseaux, mais elles avaient un endroit où on les agrainait quand même. Et donc, et pendant l'hiver, le groupe s'est scindé. Elles ont été vues jusqu'aux Pays-Bas.
Ouais.
Elles avaient des bagues de couleurs aux pattes, oui.
Et alors vous, au bout de 2 mois, vous les laissez, vous partez un peu avec la peur au ventre, finalement, parce que... Est-ce qu'elles vont rentrer toutes seules? Est-ce qu'elles vont trouver le chemin du retour?
Est-ce que notre expérience va fonctionner?
Est-ce que vous avez été de bons professeurs?
Et voilà, on doutait.
Les oies naines allaient-elles savoir rentrer? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Vous allez nous raconter comment s'est terminée cette aventure avec ces oies naines. On poursuit ce temps d'un bivouac en plein ciel, à vol d'oiseau, avec vous, Christian Moulec. Très bel après-midi à l'écoute de France Inter.
You find warmth in a one-night bed.
The Alessi Brothers qui chantaient Seabird sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Le gamin fut perdu pendant un moment, tant la tête lui tournait. L'air sifflait et chuintait à ses oreilles. Les ailes battaient, les plumes frappaient l'air en un véritable mugissement de tempête. 13 oies volaient autour de lui, criant tant et plus. Tout ondulait devant ses yeux et ça bourdonnait dans ses oreilles. Nils riait. Puis il se rappelait dans quelle mauvaise posture il se trouvait et il se mettait à pleurer. Mais tout de suite après, il riait à nouveau. Jamais auparavant, il n'avait avancé à une telle vitesse. Lui qui avait toujours aimé lancer un cheval au grand galop. Et il n'avait bien sûr jamais imaginé qu'en haut, l'air pouvait être si frais, si chargé de bonnes odeurs d'humus et de résine. Jamais non plus, il n'avait imaginé ce que pouvait être un voyage si haut au-dessus du sol. C'était comme de quitter tous les soucis, les chagrins et tous les déboires imaginables.
Extrait du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, roman suédois écrit par Selma Lagerlöf, lu ici par Martine Chevalier de la Comédie Française. Christian Moulec, vous qui volez régulièrement depuis plus de 20 ans avec des oiseaux, vous avez éprouvé les sentiments décrits dans ce conte ?
Ah oui, ce conte avait été écrit pour enseigner la géographie du pays aux jeunes Suédois. Nous, on a découvert la géographie de la Suède de la même manière, en vol avec des oiseaux. Et je découvre toujours, j'ai de nombreux pays toujours en vol avec mes oiseaux. J'ai volé partout en Europe, en Afrique du Sud, en Chine, au Moyen-Orient. Donc c'est toujours des moments extraordinaires.
Ouais. Et lorsque vous avez survolé la Suède, les habitants de ce pays ont dû immédiatement faire le lien avec Nils Holgersson.
Oui, il m'appelait Nils Holgersson. Ouais. Oui.
Mais là-bas, c'est vraiment un mythe, hein, Nils Holgersson.
Oui. Sur les billets de banque, on voit des oies avec le petit Nils qui vole sur une oie, oui.
Ouais. Alors après avoir conduit les oies naines depuis la Suède jusqu'en Allemagne, au printemps, vous vous retrouvez sur le site de départ. Où vous attendez de pied ferme vos oies naines en espérant qu'elles arrivent.
Oui. Alors, mais déjà pendant l'hiver et au début du printemps, sur mes claviers d'ordinateur à la météo, je regardais les conditions qu'elles allaient pouvoir rencontrer, les obstacles, et du brouillard souvent tenace en Baltique. Mais je me disais, mais comment elles vont faire? C'est pas possible. Il y avait 3 semaines de brouillard. Qu'est-ce qu'elles vont devenir si on les retrouve pas? Et alors, je suis allé en Suède à l'époque où normalement, on avait eu un coup de fil de Lombard qui avait vu quelques oiseaux déjà revenir. Quelques-uns de nos oiseaux. Donc, je suis retourné très vite là-bas et j'ai été témoin du retour de quelques-uns de nos oiseaux. C'est des grands moments après.
Vous les avez vus arriver?
Ah oui.
Vous les avez tout de suite reconnus?
En vol, elles m'ont vu. J'avais la tenue de bure. Ah, elles ont fait un virage, c'était un couple, deux oiseaux, ils ont fait une embardée, puis ils sont venus me poser à mes pieds, et puis on a discuté, on s'est raconté plein de choses, comment ça s'était passé l'hiver.
Vous aviez remporté votre pari, vous avez réussi à non seulement les guider, mais à leur faire enregistrer, mémoriser le site de départ et le trajet pour revenir.
Oui, elles étaient revenues sur le site qu'elles connaissaient le mieux, où elles avaient appris à voler avec nous en Suède.
Mais toutes les oies sont rentrées?
Alors, on a été témoin de 60% de retour des oiseaux sur environ 10 jours où je suis resté là, mais la réserve faisait 20 000 hectares, très très grande. On n'a pas été témoin de tout, mais ouais. Probablement que une majorité des oiseaux sont
rentrés et certains, vous ne les avez pas identifiés.
Voilà.
Preuve était faite, en tout cas, que c'est possible de guider des oiseaux.
Ça
et de leur montrer.
Le pari était gagné.
Vous auriez voulu refaire ça plusieurs fois, plusieurs années de suite. Ça n'a pas été possible?
Non, parce que Lombard est décédé. C'était un monsieur vénérable de 80 ans, déjà.
Donc ça, c'était le scientifique qui s'occupait de la réserve dont vous êtes parti.
Voilà. Donc, en partenariat avec nous, donc il organisait tout ça. Et pour pouvoir continuer, il aurait fallu fédérer la Norvège et la Finlande, et c'est difficile.
Ça n'a pas fonctionné.
Il faut que tout le monde soit d'accord, il faut une espèce d'unanimité, et quand on demande unanimité, souvent on n'arrive à rien.
Alors depuis cette aventure, vous vous faites le porte-parole des oiseaux migrateurs, vous dites les oies m'acceptent parmi elles en vol, je me sens obligé de me faire leur porte-parole.
Oui, parce qu'elles ne parlent pas, je connais un petit peu leur langage, mais je suis obligé de dire pourquoi elles disparaissent, pourquoi les oiseaux, pourquoi en 30 ans on a perdu en Europe un tiers des populations d'oiseaux. Pourquoi?
Alors pour quelle raison ?
Eh bien parce que nos agriculteurs sont obligés d'adopter un mode productiviste pour pouvoir être compétitifs vis-à-vis des multinationales qui font des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui ne sont pas chers, c'est pour réduire les coûts. Donc c'est une nécessité pour eux, eh bien d'araser les haies, de mettre des pesticides et sinon ils sont en concurrence avec les multinationales. Ce sont les traités de libre-échange qui permettent tout ça et ça on ne peut pas le changer puisque ce sont pas les nations qui décident, ce sont des instances supranationales qui décident non pas pour les agriculteurs ni pour les consommateurs mais pour l'intérêt seulement des multinationales. Donc on ne peut pas changer ça tant qu'on est sous la coupe de ces instances supranationales.
Alors vous, à votre échelle, vous avez construit autour de votre ferme dans le Cantal un petit paradis pour les oiseaux.
Ah oui, oui, oui. Alors moi, très tôt, j'ai compris qu'entouré d'une riche biodiversité, on était plus heureux. Et il y a une étude qui vient de sortir. Quand on augmente le salaire moyen en Europe de 10%, eh ben, les gens ne sont pas 10% plus heureux. Peut-être 5% de plus heureux. Mais quand on augmente la biodiversité, surtout s'agissant des oiseaux, de 10%, eh bien, les gens sont 50% plus heureux.
C'est un argument pour développer la biodiversité.
Mais bien sûr.
Alors, vous passez beaucoup de temps à vous en occuper. Alors, vous avez aménagé des plans d'eau, vous avez empêché le drainage pour que justement ce soit un lieu propice à l'accueil des oiseaux autour de votre ferme.
C'est très vallonné. Hein. On a 25 hectares, tout mis en réserve. Il y avait un petit ruisseau qui séchait l'été, mais on a créé plein de mares et maintenant il coule presque toute l'année. Ouais. Parce que le sol est gorgé d'eau tout l'hiver et puis il restitue cette eau tout l'été. Donc on a implanté naturellement les amphibiens sont venus, les batraciens, les reptiles, quantité d'oiseaux, on met des nichoirs partout, on nourrit les oiseaux l'hiver et on est heureux avec tous ces oiseaux
autour de nous. Dont les bernaches nonnettes.
Les bernaches.
Nous étions avec elle et Stéphane Combe en début d'émission. Nous allons le retrouver avec vous, Christian Moulec, en plein vol avec des bernaches nonnettes juste avant l'atterrissage.
En ce qui concerne le pilotage, parce que là, elles sont en V autour de nous, mais ça demande de ta part, j'imagine, beaucoup d'attention, beaucoup de doigté pour ne pas les percuter. Là,
écoute, elles m'évitent beaucoup mieux que moi, je ne les évite, hein, bien sûr, elles sont très à l'aise.
Alors là, c'est extraordinaire parce qu'il y a une bernache nonnette qui vient juste de se mettre sous le talon de ma chaussure et j'ai senti le bout de son aile qui a touché le talon de ma chaussure.
Ouais.
Parce qu'en fait, on est dans le vide, nous. Hein. On est assis sur un fauteuil volant et elles sont autour de nous.
Regarde celle qui plane là devant, regarde comme c'est beau. Elle plane et en même temps, elle tourne la tête à droite, à gauche, elle regarde.
Et là, on va atterrir. Et les bernaches nonnettes sont en face de nous. On est à 2,50 m du sol. Hop, on est posé.
Allez, allez.
Là, les bernaches nonnettes sont à une cinquantaine de mètres de l'ULM sur la gauche. Et là, qu'est-ce qu'elles font ?
Elles regardent toujours autour d'elles. Il y en a une qui est dressée. Il pourrait y avoir un renard. Hein. Tu les vois qui courent vers nous. Voilà, même en vol. Tu vois, elles viennent en vol vers nous. Il y en a une. Allez, 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 allez. Allez, venez.
Ces oies reviennent vers vous, Christian Moulec, dès le vol terminé. Hein. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie de s'envoler, elles n'ont pas envie de partir. Elles viennent volontairement. Là, elles pourraient, hein, elles sont complètement libres, elles pourraient redécoller et partir pour une grande migration, finalement.
Ouais, ce qui est magique, c'est que ces oiseaux sont toujours libres autour de nous. Quand on a fait ce grand voyage, toutes ces étapes, les oiseaux étaient toujours libres. Et donc on était comme eux, au milieu d'une très belle nature. Et bien, ce qui les rassure, c'est notre présence. Alors, tous ces moments partagés en vol avec les oiseaux. Et je voulais dire, j'ai un frère jumeau qui m'a initié au vol en deltaplane quand on était très très jeune en Bretagne. Il est encore en Bretagne du côté de Guidel, près de Lorient. Alors je pense souvent à lui parce qu'on a découvert, on a nourri notre passion pour les oiseaux et pour le vol ensemble.
Ouais. Alors vos oiseaux vous ont ouvert les portes du cinéma, hein. Vous avez travaillé avec Jacques Perrin pour le film Le Peuple Migrateur, vous avez fait plusieurs documentaires avec la BBC, plus récemment Nicolas Vanier a porté à l'écran votre histoire romancée, mais c'était inspiré de votre histoire avec le film Donne-moi des ailes, sorti en 2019. Vous ne pensiez pas que cette idée de voler avec des oiseaux vous emmènerait si loin ?
Ah non, absolument pas. Je ne savais pas. Je voulais travailler pour les oies naines, pour essayer de les réintroduire. Et puis, si, parce qu'on médiatise ces images qui sont spectaculaires, eh bien, on peut toucher le cœur des gens, eh bien, on va atteindre leur intelligence et puis, quelque part, peut-être changer les choses. C'est pas facile, hein, mais vraiment, tous ces moments merveilleux, notamment en Norvège, pour ce film « Donne-moi des ailes », voler au-dessus des fjords, c'est tellement incroyable, quoi. J'étais à 300 mètres d'altitude au milieu des fjords avec des cascades qui faisaient 200 mètres de haut et j'avais 25 oiseaux avec moi. Je vivais ça tout seul et il y a eu quelques images, bien sûr, très très belles et c'est une chance de vous pouvoir faire partager cette passion.
On a mis quelques-unes de ces images très belles sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac pour ceux qui voudraient les voir. Merci Christian Moulec. Votre dernier livre co-signé avec Xavier Muller s'intitule « Dans le sillage des oiseaux migrateurs ». Il est paru aux éditions Duno. Je signale aussi « Le monde à vol d'oiseaux » aux éditions de La Flandonnière. On va mettre toutes les références, bien sûr, sur notre site, sur franceinter.fr et puis les références vers votre site pour ceux qui voudraient voler avec les oiseaux. Merci à vous.
Merci.
Restez avec nous, Christian Moulec. Dans un instant, nous allons partir pour une balade à travers le monde à la découverte de plantes qui peuvent s'avérer redoutables pour les humains, voire mortelles. Pas d'inquiétude, nous aurons pour guide une passionnée de botanique, Katia Astafiev.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho. J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir. Palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais. Dans un miroir sans teint, d'où je te regarde, t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
C'était le reste de Clara Luciani sur France Inter. Et merci à Muriel Pérez qui signe la programmation musicale de cette émission.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Tout le monde connaît l'if. Bon, c'est une... cet if ici, ce grand if là. Donc, c'est une plante qui est très toxique. Les Gaulois l'utilisaient comme poison de flèche. et l'utiliser aussi pour faire des arcs, parce que le bois est assez adapté à la fabrication des arcs. Tellement toxique que des gens à Nancy, à la pépinière de Nancy, où il y a deux ours qui sont dans le jardin, en hiver, ils se sont dit, les pauvres bêtes, elles ont rien à manger, leur ont cueilli des branches d'ifs, leur ont jeté. Un des deux ours en est mort. Très toxique.
Bonjour Katia Astafiev.
Bonjour.
Vous parlez entre autres de la toxicité de l'IF dans votre dernier livre paru chez Duno, Mauvaise graine, la surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent. Vous êtes une grande voyageuse, passionnée de botanique, directrice adjointe du jardin botanique de Nancy. C'est justement à Nancy que s'est déroulée cette terrible histoire que l'on entendait à l'instant avec un ours qui est mort après avoir mangé des branches d'IF. C'est une histoire que vous connaissiez bien sûr, Katia Astafiev.
Oui, voilà, c'est un exemple d'intoxication malheureusement qui peut arriver hein, pour les gens ou les animaux qui consomment cette plante. Et donc effectivement, l'histoire de l'ours qui était au parc de la Pépinière à Nancy est assez connue pour les Nancéens. Effectivement, c'est un bon exemple de la toxicité des plantes. Hein, donc j'en donne plusieurs exemples dans le livre. Hein, ouais. Il y en a des assez terribles. Et l'IF, effectivement, est assez redoutable. Alors je vous conseille pas d'essayer de le consommer hein, parce que toutes les parties de la plantes sont toxiques, oui. Sauf la petite partie rouge charnue qui entoure la graine. Mais bon, c'est quand même déconseillé d'en manger, vous risquez de passer un sale quart d'heure.
Cela dit, l'IF est un conifère qui produit des molécules assez toxiques, mais aussi des molécules qui peuvent nous soigner. C'est toute l'ambivalence avec ces plantes.
Voilà, c'est ça qui est aussi passionnant chez les plantes, hein, parce qu'elles ont plusieurs aspects, plusieurs faces. Et effectivement, certaines espèces qui sont très très toxiques, à partir de ces molécules toxiques, on peut aussi en fabriquer des médicaments. Et l'histoire de l'IF est une des plus belles découvertes du XXe siècle hein, en matière médicale, qui a commencé dans l'Ouest américain, d'ailleurs avec l'IF américain, hein, qui n'est pas tout à fait le même que chez nous. Là, c'est le Taxus brevifolia pour les intimes. Et dans les années 60, une équipe de chercheurs est partie dans les différentes montagnes sur la côte ouest pour chercher des molécules thérapeutiques. Donc, ils ont collecté des tas d'échantillons de toutes sortes d'espèces végétales, des branches et des écorces d'IF, un petit peu au hasard d'ailleurs, hein, puisqu'on ne connaissait pas du tout ses propriétés à l'époque. Et puis, on a constaté que la molécule contenue dans la plante avait un effet cytotoxique, donc qu'elle tuait les cellules cancéreuses. Mmh. Donc, c'est assez formidable. Donc, ensuite, il a fallu des années de recherche pour vraiment réussir à bien extraire cette molécule. Oui. Et puis, c'est une très longue histoire parce qu'il a fallu couper beaucoup, beaucoup d'arbres pour extraire les molécules dans les écorces. Et donc l'histoire s'est poursuivie en France avec l'IF commun cette fois, avec des équipes du CNRS hein, qui ont dans les années 80 là, travaillé sur des feuilles, et les feuilles ça repousse, donc ça a évité de détruire des tas d'arbres, et avec ces feuilles on a fabriqué d'autres molécules anticancéreuses.
C'est ça, parce qu'au début il fallait 3000 arbres pour produire un litre de taxol. Heureusement on a réussi à synthétiser ça sans avoir besoin de raser tous les ifs de la planète. Alors on le comprend en vous écoutant, les plantes les plus redoutables peuvent avoir de bons côtés, et c'est bien de garder cette idée en tête pour ne pas se fâcher complètement avec ces plantes après la discussion qui va suivre avec vous, puisque dans votre livre, vous nous emmenez à la découverte de ces plantes les plus dangereuses de la planète. Il y en a beaucoup de ces plantes toxiques. On a par exemple des plantes, alors c'est même plus en les mangeant, c'est rien qu'en s'y frottant que l'on risque de passer de vie à trépas avec des orties géantes redoutables. Où les trouve-t-on ?
Alors, pas trop près de chez nous.
Heureusement voilà.
Pour nous. Ils sont un peu plus terribles que notre sympathique petite ortie qu'on trouve au bord des chemins. Alors là, on va aller jusqu'en Nouvelle-Zélande ou en Australie, où effectivement, il y a certaines espèces d'orties qui sont absolument redoutables. Ouais. Alors, évidemment, si elles piquent, c'est pas pour embêter les humains, mais pour elles, ce sont des mécanismes de défense contre les prédateurs, hein, pour éviter de se faire trop croquer. Et effectivement, il y a par exemple en Nouvelle-Zélande, une ortie qui s'appelle Urtica ferox, qui porte bien son nom puisqu'elle est particulièrement féroce. Et puis, la pire, on va la trouver en Australie. Elle s'appelle Dendrocnide moroides, hein, donc un petit nom latin un peu compliqué. On la surnomme Jimpy Jimpy, qui est un nom aborigène. Et alors là, le contact avec cette plante est absolument redoutable. Hein. On a le témoignage, par exemple, d'une étudiante américaine qui dit qu'après avoir touché la plante, elle a eu la sensation à la fois d'être électrocutée et aspergée d'acide chaud. Donc oui. C'est un peu l'horreur.
Ça a l'air voilà. Douloureux. En plus, ça peut durer pendant des mois hein, quand on s'est frotté un Jimpy Jimpy. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que dans un herbier, une feuille morte depuis 100 ans, reste active et peut encore provoquer des démangeaisons.
Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'est une molécule chimique qui est très très stable et qui ne se dégrade pas facilement, et donc elle reste extrêmement dangereuse comme ça dans le temps. Et du coup, même une plante séchée peut toujours être assez dangereuse.
Ouais, et quand on dit dangereux, c'est vraiment dangereux, parce que vous parliez de l'Urtica ferox de Nouvelle-Zélande. Lui, il a tué un chasseur de 34 ans en 1961 qui est mort de s'être frotté à cet arbre, à cette ortie géante.
Voilà, alors il y a des cas souvent d'accidents qui sont douloureux mais qui se terminent pas trop mal, et effectivement on a au moins un témoignage effectivement d'un chasseur alors qu'il a dû souffrir hein, puisqu'il a eu commencé à avoir des paralysies, des problèmes respiratoires simplement après avoir traversé une parcelle de la plante hein, sans la connaître bien sûr. Donc effectivement c'est tout l'intérêt de connaître un tout petit peu les plantes qui poussent autour de chez soi.
Oui, oui. Alors on s'en rend aussi compte avec un autre. Alors il est considéré, vous le dites, par le Guinness Book comme l'arbre le plus dangereux du monde, c'est le mancelinier. À quoi ressemble-t-il et où le trouve-t-on ?
Alors là, on est plutôt sur la côte Caraïbe. Donc c'est un petit arbre hein, de 5 à 10 mètres de hauteur qui pousse le long des plages. Hein. Donc effectivement, on peut en trouver. Alors souvent, c'est indiqué, hein, puisqu'évidemment, les gens du coin le connaissent et donc conseillent de pas trop s'approcher. Par contre, évidemment, il n'y a pas forcément des pancartes partout. Mmh. Et il y a régulièrement des cas d'accidents. Hein. J'ai trouvé par exemple le témoignage en 1999 d'une radiologue anglaise, donc a priori qui a quelques connaissances médicales, mais qui bien sûr ne connaissait pas cette plante-là, qui a repéré le fruit qui ressemble à une pomme, hein, et puis bon, comme on sait, il faut pas toujours croquer la pomme, voilà. Et donc ça s'est assez mal passé pour elle. Hein. Elle a vraiment ressenti des douleurs très intenses dans la gorge, avec des inflammations. Enfin voilà, elle a fini aux urgences. Hein, elle est pas morte, mais c'est quelque chose qui peut aussi arriver puisque toutes les parties aussi de cette plante sont extrêmement toxiques.
Ouais, et vous dites que beaucoup d'explorateurs en ont fait les frais. Hein. L'équipage de James Cook, après l'avoir touché, en avoir coupé des branches, se sont frottés les yeux et ont été aveugles pendant plusieurs jours. C'est bien d'apprendre effectivement à reconnaître un mancelinier. On termine avec une peut-être moins dangereuse, mais qui peut être désagréable à l'odeur, c'est la rafflésie, une fleur géante qui sent abominablement mauvais.
Voilà, alors ça c'est plutôt anecdotique, mais c'est intéressant.
On la trouve
là, on a... Alors là, on va être en Asie du Sud-Est. Hein, donc là, j'ai le plaisir, par exemple, d'en croiser en Malaisie. Sinon, on va trouver certaines espèces en Indonésie ou au Vietnam, à Bornéo, par exemple. Et par contre, c'est une plante incultivable. Hein, donc malheureusement, vous n'en verrez pas dans les jardins botaniques si vous en cherchez. Et c'est une plante extrêmement impressionnante.
Hein, Qu'est-ce que ça sent exactement alors ?
Alors, ça a plutôt une odeur de cadavre. Bon. Voilà. Donc c'est pas très très agréable. Mais en fait, pour la plante, c'est un moyen d'attirer ces insectes pollinisateurs, donc pour assurer sa survie. Donc évidemment, c'est pas pour nous embêter.
Bien sûr.
Et donc, c'est un moyen d'assurer sa survie en attirant les insectes. Et puis, ça dure pas longtemps. Hein, donc voilà, on a une floraison qui est assez courte. Un moment pour attirer les insectes. Et ensuite, la plante va finir son cycle de vie qui est très spécial parce qu'en plus, c'est une plante parasite. Hein, elle a pas de racines, elle a pas de tiges, elle a pas de feuilles. C'est très curieux. Et elle pousse en parasite sur une espèce de liane qu'elle trouve là où elle pousse.
Bon, merci. Merci Katia Astafiev. On apprend plein de choses dans votre livre et puis on se rend compte qu'il est quand même utile de savoir reconnaître ces plantes pour savoir desquelles il faut peut-être se méfier quand on les croise. Merci à vous Katia Astafiev. Je rappelle le titre de votre livre « Mauvaise graine, la surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent » aux éditions Dunod. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Pour réécouter cette émission, il y a le podcast, bien sûr. Merci à toutes et à tous pour les nombreux messages que vous nous laissez sur la page Facebook du temps d'un bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, on retrouve Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin. Aujourd'hui, il s'intéresse à nos visages.